Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allemagne.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allemagne. Bonjour à tous, nous voilà de retour pour une nouvelle chronique nature. On accueille aujourd'hui une petite nouvelle. Bonjour Marion.
Bonjour.
Donc Marion, tu es la nouvelle animatrice de l'ALEP.
C'est ça.
Et donc on aura l'occasion, le plaisir de te retrouver pour plusieurs chroniques en fonction des nouvelles thématiques et des actualités nature. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose, d'un événement de saison. Ça fait plusieurs semaines qu'on peut voir dans le ciel de Mende et de Lozère des hirondelles. Pourquoi est-ce qu'on les voit maintenant là arriver au printemps? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps? Est-ce qu'elle le fait ou pas?
Alors je sais pas si l'hirondelle fait le printemps, mais c'est sûr que elle arrive avec les beaux jours, avec aussi le chant des oiseaux, tout ça, enfin tout ce qui fait le printemps, et c'est justement la migration qui amène tous ces oiseaux dans notre ciel.
Qu'est-ce que la migration?
Qu'est-ce que la migration? Si on prend la définition de migration, c'est un mouvement saisonnier de certains oiseaux qui se déplacent d'une aire de reproduction vers une aire d'hivernage. Donc en bref, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des oiseaux toutes les espèces ont besoin d'un endroit pour se reproduire, parce que c'est quand même un but dans la nature, c'est de se reproduire et de faire plein de petits. Et ont besoin aussi de manger. Et ces besoins, ils mangent pas tous la même chose. Et du coup, arriver à l'hiver dans notre pays, souvent, cette richesse de nourriture, elle est un peu moins présente. Et donc, les oiseaux qui ne trouvent pas la nourriture qu'ils ont besoin, c'est-à-dire pour la plupart des insectes, qui vont disparaître entre guillemets en hiver, vont partir dans des endroits où ils vont trouver cette nourriture. Par contre, ils vont avoir besoin de revenir pour se reproduire.
D'accord. Donc, est-ce que tous les oiseaux migrent?
Alors, tous les oiseaux se déplacent pour coloniser. Au moins coloniser des nouveaux espaces, parce que les jeunes ont besoin de trouver un nouveau territoire et tout ça. On parle pas tout le temps de migration quand il y a un déplacement des oiseaux, mais il y a une grande partie des oiseaux qui sont migrateurs, ouais. Même s'il y en a qui vont au sein d'une même espèce, il y en a qui vont rester sur place et il y en a même qui vont migrer.
Ok, donc en fonction des besoins et des ressources du milieu, ils vont avoir besoin ou pas de partir et de revenir.
C'est ça.
Donc là, on fait le lien aussi avec les amphibiens dont on parlait quelques semaines auparavant, qui migrent également pour se reproduire, mais là sur des distances un peu moins importantes que les oiseaux.
C'est ça, ils sont un peu moins... Ouais.
D'accord, donc c'est vrai que quand on parle de migration, on pense aux oiseaux, mais les insectes, les amphibiens et certains mammifères peuvent aussi migrer.
Voilà, ouais. Il y a énormément d'espèces qui migrent, quoi. Et on peut parler des baleines aussi.
Et tu disais du coup tout à l'heure qu'ils partaient en fait pour, tout simplement à la recherche de nourriture, et ils reviennent pour se reproduire. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont une sorte de QG, c'est-à-dire un endroit qui est principal pour leur développement, etc., donc pour la reproduction, etc. Et ils partent vraiment seulement en cas de besoin de nourriture?
Alors, ils partent pour la nourriture. La nourriture, c'est ce qui est le plus important. Et ils vont revenir pour se reproduire dans un milieu qui est adéquat à leur reproduction. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de... Alors, ça dépend des espèces. Ça va être plus ou moins spécifique l'endroit où ils ont besoin de se reproduire. Il y a certaines espèces qui vont être sur différents milieux et qui vont être moins exigeants que d'autres. Mais le fait qu'ils partent tous en migration dans des endroits où il fait un peu plus chaud, ça veut dire qu'ils sont tous au même endroit, donc le territoire devient plus restreint parce qu'il y a tout le monde au même endroit. Enfin voilà, il y a plus de prédation aussi, donc parce qu'il y a des prédateurs autour qui vont les empêcher de se reproduire. Donc c'est plus intéressant de revenir et de se reproduire chez nous que de rester tous agglutinés les uns sur les autres et pas pouvoir trouver la compagnie idéale, l'endroit idéal pour faire sa couvée quoi.
Donc ils migrent entre deux endroits, mais ils ont quand même leur chez-soi auquel ils reviennent chaque année.
Ouais. Ouais. Bah après, tout dépend aussi des espèces. Il y a des espèces qui vont changer d'endroit, il y a des espèces qui vont revenir exactement dans le même jardin chaque année, quoi.
Et on pense souvent aux oiseaux qui reviennent en été, mais il faut savoir qu'il y a des migrants qui viennent chez nous en hiver aussi, des oiseaux du nord qui viennent passer l'hiver chez nous.
Tout à fait. Il y a la migration, elle se fait aussi du nord vers le sud. Alors il y en a qui font un peu le sens inverse, mais ça c'est des espèces qui sont vraiment à part. Donc on a certaines espèces qui viennent chez nous, ce qui est assez marrant parce que c'est parfois les mêmes espèces qu'on a déjà pendant la période estivale où il est beau jour. Donc on a l'impression qu'ils partent jamais, mais en fait c'est juste les populations du nord qui migrent un peu plus au sud parce qu'elles sont moins frileuses, et les populations de chez nous qui partent un peu plus au sud. Donc on peut penser par exemple aux pinsons qui où on a des pinsons qui vivent, des pinsons des arbres qui vivent plus au nord et qui descendent vers chez nous, alors que ceux qui vivent chez nous vont plus descendre vers l'Espagne ou le sud de la France, quoi.
Oui, on peut aussi penser aux buses. On a l'impression en hiver que les buses deviennent blanches, mais même si elles s'appellent buses variables, c'est pas forcément qu'elles changent de plumage, c'est que ce sont les buses du nord qui viennent chez nous en hiver.
C'est ça.
Il y a eu un remplacement de population, quoi.
D'individus, ouais, complètement. Voilà. Alors du coup, comment ils font? Est-ce qu'ils partent tous en même temps?
Alors non, ils partent pas tous en même temps. Ça dépend aussi des espèces. Alors c'est un peu compliqué, mais en même temps on peut l'expliquer. Il y a un truc qui va motiver en fait la migration. Ça s'appelle la photopériode. Alors cette photopériode, c'est un gros mot de scientifique, mais c'est simplement en fait la longueur de la journée. On le constate tous, les jours sont plus ou moins longs en fait dans l'année, et en fait on a des capteurs dans nos yeux. Tous les êtres vivants ont ces capteurs qui leur permettent de cette photopériode va générer chez les oiseaux le développement d'une glande, et donc l'hypophyse, et va stimuler en fait cette envie de migration. Chez nous, la photopériode va générer d'autres choses, mais voilà, chez tous les êtres vivants, il y a un enjeu.
Donc c'est pas un instinct, c'est vraiment un besoin biologique.
Ça, voilà. Après, il y a sûrement une part d'instinct, c'est quelque chose qui reste un peu flou dans le monde scientifique, mais oui, il y a une forte part qui vient de la biologie des espèces. Et de tous les facteurs externes.
D'accord. Donc il y en a qui ont différentes périodes de migration. Il y en a qui, on va parler de ceux qui arrivent plus ou moins tôt dans l'année. Mm-hmm. On parle beaucoup de l'hirondelle, mais est-ce qu'il y en a qui arrivent avant ?
Oui, il y en a qui migrent très tôt, fin janvier, début février, on a des premières espèces qui commencent à migrer. On peut penser aux vanneaux huppés. Qui arrivent très tôt ou parfois ne partent pas, en fait. Ça dépend un peu. Voilà, cette année, par exemple, on a des populations qui sont restées sur place, mais parce que l'hiver a été plutôt doux, et donc du coup, ils n'ont pas ressenti le besoin de migrer. C'est ce qui se passe aussi, par exemple, chez le rouge-gorge. Il y en a certains qui vont rester sur place en se disant, si je reste sur place, je prends le risque d'affronter l'hiver, de peut-être affronter un dur hiver, mais j'aurai le meilleur territoire pour accueillir la meilleure femelle. Quand
je serai déjà en place.
Voilà, je serai déjà en place.
Ok, donc tout ça, c'est une histoire de stratégie.
C'est ça.
Donc il y a vraiment en fait un moment déclencheur. Si ça ne se produit pas, même s'ils ont l'habitude chaque année de migrer, ça peut une année arriver qu'ils restent sur place.
Alors ça dépend des espèces. Il y a vraiment des populations toute la population va migrer, et il y a des espèces qui peuvent être ce qu'on appelle sédentaires, ou migrateurs partiels. Enfin, c'est des espèces qui voilà vont faire. On peut dire un choix, même si c'est un peu particulier de parler de choix chez un animal, mais sauvage, mais
voilà. Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Mmh. Ouais, ça peut être le lien aussi avec certains changements météorologiques ou changements climatiques. On se pose actuellement la question de l'impact des changements climatiques sur les migrations. On observe que, en fonction de la ressource alimentaire, forcément, s'il fait plus ou moins chaud, il n'y a pas la même quantité de nourriture. Donc, est-ce que il migre ou pas? Enfin, voilà, c'est des paramètres qui sont en train d'être étudiés, mais pour lesquels on n'a pas forcément encore de résultats concrets. Ouais.
Ouais. Bon, on peut pas attester. On peut pas attester aujourd'hui que ça ait un impact, même si on peut se douter de l'impact qu'il peut y avoir. Mais on peut surtout penser que les espèces s'adaptent justement à ces changements, à ces aléas, et du coup vont vers une évolution constante, quoi. Il y a toujours une évolution de façon dans la nature, donc voilà.
D'accord. Du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont tous la même façon de se déplacer? Ils volent de jour, de nuit, en groupe, tout seul?
Ah, ça c'est pareil, ça dépend des espèces. Alors c'est horrible dans la nature, en fait. Il y a plein de stratégies différentes, et c'est ça qui en fait aussi sa richesse. Il y a différentes stratégies de vol déjà. Donc il y en a qui vont adopter ce qu'on appelle le vol battu, donc c'est-à-dire battre des ailes. Il y en a qui vont faire le vol plané. Alors le vol battu, ça va être plutôt pour tout ce qui est petits oiseaux. Par exemple les passereaux, pour reprendre l'exemple du pinson, le pinson il va battre des ailes très vite pendant quelques secondes, puis se laisser tomber en fait pour économiser son énergie. Le vol plané, là ça sera plus les grands oiseaux comme les rapaces par exemple, ou les cigognes, qui vont utiliser les courants d'air chaud ascendant, se laisser porter par ces courants d'air chaud, monter en altitude et du coup se laisser planer pour atteindre des distances souvent assez longues. Après, il y a des oiseaux qui volent, qui vont effectuer leur migration plutôt de jour, des oiseaux plutôt de nuit. Donc, une majorité des oiseaux, c'est plutôt la nuit, mais on en voit beaucoup de jour. C'est ce qui fait aussi notre plaisir, en fait, quand on va observer les migrations. Le vol de jour est moins stratégique pour les oiseaux parce que ça demande beaucoup de
ils prennent des risques, quoi.
Ils prennent des risques, merci. ils prennent des risques parce qu'ils sont plus visibles par rapport aux prédateurs, et puis en plus ils peuvent pas se nourrir quand on vole, quand on est en train de voler. On va
T'as
avoir
déjà
moins
essayé.
De temps. Ouais, j'ai essayé, c'était compliqué. on va avoir moins de temps pour pouvoir se nourrir, surtout qu'il faut arriver à l'étape suivante. Donc les vols de jour sont plus utilisés par les oiseaux qui vont faire des distances qui sont plus courtes. Par exemple, la fauvette ou les pouillots vont faire des petites distances. Ils vont migrer en fait d'arbre en arbre ou de buisson en buisson. Et du coup, se nourrir en même temps. Ou alors, il y a des oiseaux qui vont plutôt voler en journée, enfin en début de journée, et passer le reste de la journée à se nourrir, quoi.
D'accord. Puis quand on vole de nuit, on échappe aux chasseurs aussi.
Et quand on vole de nuit, on échappe aux chasseurs également. Ça, c'est aussi une problématique de la migration, parce que la migration, c'est quand même quelque chose de dangereux. Chaque année, il y a des milliers d'oiseaux qui meurent. Alors il y a différents facteurs. Il y a donc la chasse qui est quand même un facteur qui est important, parce que des oiseaux qui parcourent la France pour rejoindre l'Afrique, c'est des oiseaux qui passent par différents territoires. Donc il faut penser que nous on en chasse certains. On peut penser à la palombe dans les Pyrénées, aux oies. Il y a certains oiseaux qui sont chassables en France, mais on peut aussi penser aux passereaux qui traversent la Méditerranée, qui ont traversé la France avant et qui, en arrivant en Mauritanie ou en tout cas en Afrique du Nord, se retrouvent dans des filets parce que là-bas c'est une tradition aussi. Donc Donc c'est compliqué.
Il y a aussi les traditions réunies font qu'il y en a pas mal qui sont chassables.
Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont chassables, même des oiseaux que nous on protège ici. C'est un peu le paradoxe
de la protection.
Et puis après il y a aussi les aléas de la météo. Il y a aussi nos infrastructures qui sont plus ou moins bien placées. On peut penser aux pylônes électriques, aux éoliennes, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des passereaux volent à moins de 2000 mètres d'altitude, ce qui n'est pas énorme, et du coup heurtent souvent des immeubles, des éoliennes, des pylônes, parce que c'est sur leur trajectoire, que peut-être avant ça y était pas aussi, donc parce qu'ils ont une très bonne mémoire. Et donc il y a un moment où tous ces aléas font qu'il y a une énorme perte, notamment chez les jeunes qui ont moins l'orientation facile que chez...
Et qui ont moins d'expérience. Oui, alors après, pour les éoliennes, c'est vrai que souvent, on place les parcs éoliens sur des trajectoires migratoires parce que ça correspond au gros courant d'air aussi. Mais il peut y avoir des aménagements de ces parcs éoliens. Dans certains lieux, il y a exigence de couper les éoliennes pendant la période migratoire pour limiter l'impact, par exemple. Donc, il existe des solutions.
Tout à fait.
Donc ça, je suppose que c'est pas dans tous les pays non plus.
C'est pas dans tous les pays non plus. Là, en France, c'est des conditions pour pouvoir installer des parcs éoliens sur des zones vraiment intéressantes et parfois sur la zone littorale où on sait qu'il y a des gros passages. Là, on les installe en disant « Ok, mais si vous voulez les installer, vous les coupez pendant les 1 à 2 semaines qui sont sensibles pour la migration. » Voilà, ça, c'est possible.
C'est ça.
Alors une petite parenthèse, je suppose qu'il faudrait toute une émission pour en parler, mais comment vous visualisez la France justement par rapport à cette échelle de protection environnement et aussi espèces, comparée un petit peu déjà à l'Europe? J'imagine, ouais, c'est trop compliqué, non, on n'est pas obligé non plus de...
si, c'est intéressant, mais ce qui est compliqué, la France a ses propres lois, elle est régie aussi par les lois européennes, qui sont assez exigeantes en matière de protection de la nature quand même. Après, il y a des paradoxes dans tous les pays, ce qui fait que ça rend la protection des oiseaux migrateurs compliquée. Voilà, parce qu'effectivement, ils vont pas être soumis aux mêmes enjeux en fonction des différentes périodes de leur vie, en fonction de la nidification, en fonction de la migration. Et oui, c'est compliqué, notamment au niveau des passages de col, parce qu'ils sont tous concentrés au même endroit. Hein. Quand on parle des Pyrénées, par exemple, si la chasse a un si gros impact, c'est qu'ils se concentrent tous dans les mêmes couloirs de migration et que des palombières postées à ces endroits-là, ça, c'est plusieurs dizaines de milliers de palombes qui sont tirées chaque année. Et donc, par exemple, c'est aux États-Unis que, en chassant la palombe migratrice américaine, que les Américains ont exterminé l'espèce. Donc, on peut, en chassant juste pendant la migration, exterminer une espèce. Donc, c'est pas anodin.
Donc, les Américains, c'est pas exemple à suivre.
Pas pour ça, en tout cas. Ouais. Ok. Alors ils font des grandes distances, mais comment ils font pour s'orienter? Parce que si il y en a pas mal qui migrent de nuit. Ok, ils ont une bonne mémoire, mais est-ce que la mémoire suffit pour prendre une trajectoire et la garder et être sûr qu'on arrivera au bon endroit?
Alors ça, c'est un peu la grande question des scientifiques. Et c'est vrai que c'est toujours en cours d'études, quoi. Ce qu'on sait, c'est que voilà, ils ont une très bonne mémoire, donc ils vont suivre les reliefs. Les cours d'eau, ils vont éviter de passer, enfin en tout cas pour ce qui est des oiseaux qui ne sont pas marins, ils vont éviter de passer au-dessus des grandes étendues d'eau, parce que au-dessus des grandes étendues d'eau, c'est des risques, c'est un danger, parce qu'on peut pas se poser, on peut pas, voilà. Et donc ils vont s'appuyer sur le type de relief, les villes qui connaissent et tout ça, ce qui fait que quand on change un endroit, qu'on met une autoroute et tout ça, ça peut perturber d'une année sur l'autre. Mais il y a aussi l'orientation grâce au soleil qui du coup aujourd'hui est connu la nuit tout à fait mais on peut en rigoler, mais en même temps les oiseaux ont un spectre lumineux qui est supérieur au nôtre, et donc du coup eux ils voient le soleil plus longtemps quand même.
D'accord, ouais. Oui, puis ils sont plus hauts, donc ils le voient plus longtemps,
et en plus ils sont plus hauts, ils sont trop forts. Et du coup, voilà, les chercheurs, ils ont défini que dans les yeux des oiseaux, il y aurait comme des petites gouttes d'huile qui permettent de polariser la lumière et du coup de s'orienter. Alors, faut pas trop me demander d'aller plus loin dans cette explication, mais ça a l'air vachement intéressant.
On va pas le faire.
Après, il y en a certains qui s'orientent aussi grâce aux étoiles. Du coup, bah, l'étoile polaire, c'est pas spécialement un mythe, mais voilà, ils s'orientent en tout cas grâce aux constellations et à la manière dont sont positionnées les constellations. Et après, ils sont aussi capables de s'orienter grâce au champ magnétique de la Terre. Alors, ils auraient comme un aimant dans la tête qui leur permettrait de s'orienter en fait. De ressentir, de percevoir ce champ magnétique et du coup de garder leur trajectoire. Mais tout ça, en fait, c'est quand même instable parce que les oiseaux vont aussi utiliser les courants d'air, donc le vent, notamment parce que ça leur permet d'aller plus vite et de dépenser moins d'énergie quand le vent vient de l'arrière. Et ça va souvent les désorienter, en fait, c'est ça aussi. Enfin, c'est aussi une des pertes des oiseaux. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal d'oiseaux migrateurs dans les mers ou les océans. Et du coup, on ne sait pas comment ils arrivent à vraiment se recentrer sur leur trajectoire. Si c'est le fait que les courants sont trop forts, sont trop violents et que du coup ils n'arrivent pas, ou si c'est parce qu'ils pensent être dans la bonne direction.
Ou qui se sont trompés. Ouais, mais c'est vrai que le lien avec les étoiles ou les champs magnétiques, ça a aussi été démontré par des scientifiques pour les amphibiens. Donc voilà, ils sont beaucoup plus sensibles que nous et c'est tout à fait possible qu'ils puissent utiliser ça pour s'orienter. Et puis après, c'est toutes ces compétences combinées aussi qui font que ce soit possible. Quoi, c'est certainement pas une seule.
Ah non, ouais, c'est vraiment. Je pense qu'ils ont plein de. Plein d'astuces à mettre en œuvre.
Et juste, quand on les voit, en général, ils sont plusieurs milliers à voler, etc. Comment ça marche? Tout le monde se suit ou il y a un leader qui ouvre la route?
Ça dépend encore des espèces.
Ouais. c'est toujours différent. Il y en a qui vont migrer du coup en groupe, donc en gros groupe. On peut penser aux étourneaux, les grands vols d'étourneaux.
Ou alors, pinsons ou de palombes.
Tout ça. On peut penser aussi aux oies qui volent en plus petits groupes, mais quand même ensemble généralement.
Sur les oies, on les voit souvent voler en V.
Ouais.
Alors pourquoi est-ce qu'on a trouvé une utilité à ce vol en V?
Ah bah oui, il y a quand même une grande utilité à ce vol en V. Alors ce vol en V, c'est assez connu, c'est du coup la loi qui est en tête du V, qui fait la pointe du V, casse l'air, fond l'air, ce qui permet aux autres de dépenser moins d'énergie. Et du coup, il y a une rotation avec la loi de tête qui permet en fait de voler plus longtemps et de manière moins fatigante, parce que c'est quand même très fatigant d'assurer une migration.
Donc là, c'est de l'entraide comme peuvent le faire, bon là c'est pas le même paramètre, mais c'est un peu le même principe. Sur les loups, quand ils marchent dans la neige, c'est le premier qui ouvre la voie et qui se fatigue, et que les autres s'économisent, et ensuite ça tourne, quoi.
C'est exactement ça, sauf que les oies, elles font une rotation.
Ouais. Les loups aussi, il y a la hiérarchie en plus.
Voilà.
Ok. Du coup, la migration, c'est vraiment un danger, une période. À gros enjeux par rapport aux dépenses énergétiques, aux pertes d'orientation, aux prédateurs, à la météo, à la chasse. Donc, ceux qui arrivent chez nous, ceux qui ont réussi leur migration, on peut prendre plaisir à les voir, à les observer maintenant. Ça va commencer, là, ça a déjà bien débuté. Et puis, on peut aussi avoir le plaisir de les entendre, puisque c'est le début de la période de reproduction.
Et oui.
Donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour une autre émission sur les chants des oiseaux pour vous apprendre à décrypter les chants les plus communs, qui sont pas si compliqués que ça. Et une fois qu'on s'entraîne un petit peu, on peut vraiment facilement en reconnaître certains. Voilà. Donc merci Marion.
Merci à vous.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.